France Culture. h13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
On le connaît romancier, mais c'est le photographe que j'invite aujourd'hui. Jean-Philippe Soussin sera avec nous à partir de 13h. Et tout de suite, place à la critique cinéma avec deux films en salle aujourd'hui. Kika, premier long métrage d'Alex Poukine, et Les Aigles de la République, troisième volet de la trilogie du Caire de Tariq Saleh. Vous écoutez les midis de culture et sur cette ligne, pas de friture. Et pour débattre autour de la table des midis, aujourd'hui Raphaël Pirer, critique pour le site AOC, membre du comité de sélection de la Semaine de la Critique. Bonjour.
Bonjour Marie.
Antoine Guillot, producteur de l'émission Plan Large, le samedi à 13h30 sur France Culture. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à tous les deux. On commence donc avec le troisième volet de la trilogie du Caire de Tariq Saleh, après le Caire confidentiel sorti en 2017 et la conspiration du Caire, prix du scénario à Cannes il y a 3 ans. Le réalisateur suédois nous plonge à nouveau dans les méandres de la capitale égyptienne et retrouve son acteur fétiche, Fares Fares. Dans Les Aigles de la République, il interprète Georges Famy, alias le Pharaon, un acteur star en Égypte. Sa vie prend un virage assez compliqué quand il se voit contraint d'incarner le président Al-Sisi dans un biopic tout à la gloire du dictateur qui écrase toute forme d'opposition dans le pays. On commence avec quelques mots d'abord, Raphaël Pirer.
Il y a quelque chose que j'aime bien dans l'idée de départ du film, qui est que en dictature, en fait, les cinéastes, les citoyens les mieux armés pour se débrouiller dans la société, ce sont les acteurs, parce qu'ils sont rompus à l'art de la dissimulation. Et donc Tariq Saleh part de cette idée pour créer une mise en abîme et parler à la fois du cinéma, à la fois de politique, mais il se perd dans un espèce d'effet Bachkiri, qui de rapport entre le réel et sa dissimulation, qui fait que et le propos sur le cinéma et le propos politique se dissolvent.
Antoine Guillot.
Oui, c'est un film qui est assez casse-gueule, doublement voire triplement casse-gueule, j'y reviendrai, mais je trouve qu'il arrive finalement par toutes ces bifurcations de genre, notamment à montrer quand même comment, où qu'on soit dans la pyramide du pouvoir, et sans doute même quand on est très haut, les compromissions sont inévitables pour qui veut garder son rang dans un régime autoritaire du type égyptien, mais pas seulement.
On va écouter la bande-annonce des Aigles de la République et après on va essayer de resituer un petit peu ce film par rapport aux deux premiers volets.
Madame Suzanne, c'est Georges Fermi.
Oui.
Inti tala mwassila zay baba.
Azida mch baba. Ihna bas ashab.
Wonderful.
Andina arq min bahar. Aysinak ta'mel dour number 1. Ana ma bashtaghalsh ma'a al-agaza. Di nas ma haddish yinfa yawla hala. هاي الحكايه بالظبط ابنك ده صوته الخبال
tu as pris la bonne décision ils ont menacé mon fils Fauzi
nous sommes fiers que vous incarniez l'homme pour lequel nous avons tous une si grande admiration le ministre de la défense et son épouse
vous entrez en zone dangereuse je vous préviens je dirais même terrain miné
ici nous sommes entre amis nous sommes le bouclier qui protège la patrie Les aigles de la République.
Les aigles de la République de Tariq Saleh. Je disais Antoine Guillot qu'il s'inscrivait donc dans cette trilogie après le Caire confidentiel, la conspiration du Caire, qui avait été pris du scénario à Cannes. Voici la troisième partie. Comment on peut le situer par rapport aux deux autres?
Alors, déjà, il faut préciser que le fameux Caire, qui est dans les titres des films précédents, hein, et puis bon, là, on a compris que c'était au Caire, donc on n'a pas besoin de le mettre dans le troisième, c'est un Caire qui est largement fantasmé. Mm-hmm. C'est-à-dire que Tariq Saleh, malgré son nom, est suédois. Son père est égyptien. Son père a quitté l'Égypte en 1967 pour des raisons politiques. Et Tariq Saleh, même s'il a un peu vécu au Caire, mais qu'il est maintenant complètement interdit de séjour là-bas à cause de la virulence de ses propos sur le pouvoir politique, ne peut pas tourner au Caire. Donc c'est un Caire qui est reconstitué, qu'il va reconstituer un peu partout dans le monde arabe et musulman. Ça va du Maroc à la Turquie. Et malgré tout, il arrive à la faire vivre comme une ville, mais presque une ville de cinéma. Mmh. Et pour l'aborder, il va l'aborder par le genre. Donc dans le premier, le Caire confidentiel, c'était sous la la forme du polar poisseux. C'est un film sur la corruption un peu généralisée du pays et de la police en particulier, à un moment où l'Égypte était en situation révolutionnaire, donc tout partait à volo. Le second, La conspiration du Caire, alors là on est dans le film d'espionnage pur et dur à l'intérieur de cette université islamique au Caire, mais c'était aussi une manière de montrer à la fois la rivalité et l'alliance objective entre un pouvoir autoritaire et paranoïaque et le pouvoir islamiste, et de montrer comment le pays était pris en étau entre ces deux puissances. Et puis là, alors c'est à nouveau sous la forme du genre, mais plusieurs genres en même temps, en fait, qu'il va aborder cette ville. D'abord par un genre en soi qui est le grand cinéma égyptien. Il faut rappeler quand même, ce n'est plus trop le cas maintenant, mais quelle puissance incroyable a été le cinéma égyptien jusqu'aux années 70-80. Et le film commence comme ça, par des citations d'affiches peintes, comme on en voit encore aujourd'hui quand on va au Caire, ces affiches peintes magnifiques qui sont toute l'histoire du cinéma égyptien. Et il va le prendre aussi sous le forme de la comédie. Alors, une comédie à la fois à l'égyptienne et à l'italienne sur ce personnage absolument impossible, totalement antipathique, lamentable, mauvais père, jouisseur, impuissant, drôle de contradiction, menteur, perpétuel, donc vraiment un personnage pas possible. Et puis genre en soi encore, le film dans le film, c'est-à-dire le cinéma sur le cinéma. On va montrer le tournage de ce film improbable où avec son 1m87 il doit jouer un président qui fait 1m66, qui est chauve depuis la maternelle, comme il se moque de lui, un peu replé, mais à qui on va demander, parce que c'est le plus bel homme d'Égypte, de jouer son rôle pour le grandir encore un peu. Et puis le film va basculer encore vers autre chose, où là il va retrouver ce qu'il nous avait déjà montré un peu précédemment, c'est-à-dire le thriller paranoïaque et politique, puisqu'il est question d'un coup d'État. Donc le film bifurque sans cesse, ce qui est déjà assez casse-gueule, parce qu'on ne sait jamais trop où on en est. Et puis il va prendre donc la forme du cinéma égyptien, parce que c'est un polar, mais un polar tel que le cinéma égyptien des années 70, qui n'était pas avare de mélodrames, de situations impossibles, de kitsch aussi, va s'en emparer. Et alors, le film jouant en permanence à la fois sur ce qu'il veut raconter et comment il va le raconter, et sur une ligne un peu précaire, mais je trouve qu'il arrive à rester dessus impeccablement.
Raphaël Pierre, pour vous, il ne reste pas assez dessus justement sur cette ligne?
Oui, pour moi, il ne reste pas tout à fait assez dessus, et surtout dans la troisième partie, on pourrait dire, dans ce qui bascule dans une espèce de chausse-trappe de la fiction, qui est d'imaginer un coup d'État et à ce moment-là, effectivement, le film se décolle de ce qu'il nous racontait. Et moi, c'est un moment où cette sortie de route, cette bifurcation, fait que je me perds dans ce que le film me raconte. Et c'est vrai que le film est complètement dans cette idée. Il nous fait entrer dans un Caire qui est fantasmé. Et on entre, c'est vrai, par les affiches. Mais le plan suivant, c'est un plan de transparence de Georges Famille et l'actrice qui partage l'affiche avec lui, qui sont en voiture et devant une transparence. Donc déjà, le film nous annonce que ça va être un Caire pour de faux, et que le film va jouer avec ses effets de vrai et de faux sans arrêt. Et c'est vrai que Tariq Saleh, il filme son pays depuis l'extérieur. Donc il y a quelque chose de parfaitement affiché, de parfaitement contradictoire aussi dans cette démarche-là. Et pour revenir à la question précédente, qui était la continuité dans cette trilogie, c'est aussi l'acteur Fares Fares qui est assez incroyable dans ce film-là, mais qui joue dans les trois films de la trilogie, et qui dans le Caire confidentiel était dans un underacting absolu, très impénétrable, très un personnage très rentré, qui ne laisse rien paraître, qui est un fonctionnaire de police qui essaye d'enquêter sur une affaire que tout le monde voudrait classer. Et là, il joue le rôle absolument inverse, c'est-à-dire qu'il est un comédien totalement histrionique, qui change d'attitude, de rôle, de façon de se comporter à chaque film, mais aussi dans tous les rôles de sa vie qu'énumérait Antoine. Donc c'est un personnage vraiment protéiforme, qui montre qu'il peut s'adapter à toutes les situations de sa vie, et que finalement il est un espèce de personnage totalement creux. Et puis puis c'est aussi un personnage qui est à contre-temps tout le temps. C'est un personnage du passé. Antoine parlait de cet âge d'or du cinéma égyptien, et donc il en a été une figure et il ne l'est plus tout à fait. Il arrête pas de dire qu'il est le pharaon de l'écran, mais on sent que c'est plus tout à fait vrai. Il dit « Georges Famy ne fait jamais de mauvais films », alors qu'on voit derrière lui l'affiche du film dans lequel il a joué, qui s'appelle « Le premier Égyptien dans l'espace », dont on imagine que c'est un chef-d'œuvre immémorable. Et donc c'est un personnage qui met beaucoup de temps dans le film à comprendre ce qui lui arrive et à comprendre qu'il est en décalage temporel, qu'il est à contre-temps. Et ça se sent notamment dans une scène qui est très drôle, où il a effectivement des problèmes érectiles. Il va acheter du Viagra dans une pharmacie. Il rentre chez lui et au moment où son érection est à son comble, sa petite amie lui annonce que son père vient de mourir et qu'elle est inconsolable. Et donc, le contretemps est partout dans sa vie et aussi à un moment sur un tournage où il rencontre un assistant qui lui dit « Je m'appelle Midou ». Et il lui dit « Ah bon, tu t'appelles Midou ?» Et donc, c'est vraiment un homme qui n'est plus de son temps. Et le film commence par nous raconter ça dans sa première, voire sa deuxième partie.
Mais cet humour-là, c'était pas du tout présent dans les deux premières parties. Antoine Guillot, moi je me demandais, voilà, il a pris du scénario à Cannes avec La conspiration du Caire il y a 3 ans. Le Caire confidentiel avait été un grand coup hein, dans le cinéma. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé chez Tariq Saleh dans sa façon de filmer, dans sa façon de produire peut-être, enfin d'avoir un financement de ses films? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Pour lui, d'avoir eu ses prix, ouais. Ça lui a donné une assise à l'international. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a pas voulu, avec ce troisième film, refaire les deux précédents.
Voilà.
C'est-à-dire que les deux précédents étaient des objets assez parfaits, un peu ronds, comme ça. Ici, il prend beaucoup plus de risques, finalement, avec ce côté casse-gueule que j'ai décrit tout à l'heure. Mais tant mieux. C'est-à-dire qu'il essaye autre chose, ça passe ou ça casse. Et pourtant, on retrouve des obsessions chez lui. Par exemple, cette figure étonnante du docteur Mansour, qui a, pour retourner encore dans l'histoire du cinéma égyptien, il a un peu la gueule d'Omar Sharif. Il est joué par un formidable comédien qui s'appelle Amer Waked et qui joue le rôle que Fares jouait dans le film précédent. C'est-à-dire une sorte de démiurge, de grand manipulateur, de metteur en scène, qui est le vrai réalisateur du film dans le film, puisqu'en fait, c'est le conseiller du président qui doit surveiller le tournage de ce film. Donc il y a le metteur en scène payé pour. Et puis il y a celui qui est devant son combo en permanence, qui veille à ce que l'image du président ne soit pas salie et qui lui donne des conseils de jeu. Là, quand même, tu en fais trop. Parce que la tactique, évidemment, du comédien qui joue un rôle contre son gré, c'est de faire une sorte de second degré permanent, de surjouer son personnage héroïque pour que personne ne soit dupe et montre bien qu'il n'est pas d'accord avec ce qu'il joue. Mais ce genre de personnage semble obséder absolument Tariq Saleh, c'est-à-dire l'homme dans l'ombre qui contrôle un peu tout. Après, ce que je trouve assez beau, et ça va faire un lien avec le film dont nous allons parler ensuite, c'est que malgré tout, cet acteur lamentable a une grande conscience professionnelle. C'est-à-dire que quitte à faire un film, quitte à le jouer, autant le jouer bien, autant que le film ne soit pas mauvais, c'est-à-dire enfin selon ses critères en tout cas, mais autant faire ça sérieusement. Et puis, autre chose qui me semble toujours très intéressante chez Tariq Saleh, c'est qu'il s'interroge sur la propre mise en scène du pouvoir. Et le rôle de la parade militaire à la fin, mais c'est déjà présent un peu avant, c'est de s'interroger, voilà, comment le pouvoir se met en scène et comment il peut être pris au propre piège de sa mise en scène. Évidemment, ça rejoue l'assassinat de Sadat qui s'était fait pareil lors d'une parade militaire où tout avait l'air bien huilé. Et puis tout d'un coup, il y a comme un figurant de cette parade ou du film qui décide de jouer le premier rôle et d'agir sur l'histoire. Et tout d'un coup, ça va vriller. Donc en fait, c'est un film qui est toujours... il y a toujours une réflexion très, très profonde, intelligente, sur toutes ces questions dans un film qui effectivement est moins évident à saisir parce que il essaye des choses. Alors on peut se dire que parfois ça rate, pour moi ça marche.
Raphaël Pirard.
Oui, ce qu'il y a de différent aussi du Caire confidentiel, c'est que on était dans un vrai film noir qui à la fois envisageait la corruption du pouvoir et en même temps parler de la réalité sociale du pays, et qui allait vraiment dans ces deux extrémités de la réalité égyptienne. Alors que là, on est dans un monde de faux-semblants tout le temps. Et même si Le Caire confidentiel n'était pas filmé réellement en Égypte, on voyait les rues, on voyait des chauffeurs de taxi qui disaient leurs difficultés matérielles à vivre, qui disaient le poids de la dictature sur leur vie. Et puis le film s'achevait dans des manifestations qui étaient la préfiguration de la révolution de la place Tahrir. Et le peuple, là, disparaît complètement dans ce film-là. On voit très peu les rues, on voit très peu... ça n'a pas du tout la même texture réaliste, en tout cas, que dans cet autre film.
Antoine Guillaume.
Oui, il disparaît, mais pas tant que ça. Parce que si on regarde bien, au début et à la fin du film, il y a ces plans assez mystérieux de vieux parieurs qui écoutent la radio et qui font des paris clandestins et qui sont des scènes, là pour le coup, je pense, complètement documentaires. Il a dû envoyer des opérateurs les filmer et qui ancrent ça, dans une histoire du cinéma, une histoire de l'Égypte, parce qu'on pense qu'ils sont là depuis longtemps. En se renseignant un peu, on apprend que les paris sur les courses sont complètement interdits en Égypte depuis Moubarak, mais il reste malgré tout ce petit moment de résistance. Ils sont là au début et à la fin du film, et c'est vrai qu'au milieu, eh bien, il va montrer des gens qui sont dans des sphères très, très élevées et complètement coupées des réalités, et qui pourtant par moments arrivent à pénétrer quand même l'espèce de folie égyptienne avec cette scène étonnante dans un dîner où des hommes très proches du pouvoir, très riches et très sérieux expliquent que Shakespeare était arabe et que donc en fait l'Égypte à partir de là a tout inventé, et qui se font remettre à leur place par une femme qui a fait simplement des études et qui leur dit qu'ils sont complètement crétins.
Les Aigles de la République de Tariq Saleh, et c'est en salle aujourd'hui.
12h-13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Et on enchaîne avec un premier long métrage d'Alex Poukine, jusqu'ici documentariste, réalisatrice d'un moyen métrage très remarqué. Kika est une jeune femme, mère d'un enfant, enceinte d'un deuxième, et son nouveau compagnon meurt subitement. Assistante sociale en Belgique avec donc un très petit salaire, elle devient travailleuse du sexe et elle se spécialise dans la domination. Kika prend soin des autres en faisant le bien et en faisant mal. On commence avec un avis rapide d'Antoine Guillaume.
Alors là encore, c'est un film assez étonnant parce que tous ses débuts sont des sortes de fausses pistes. Dès le premier plan, on se dit, ça y est, on est chez les Dardennes et on va suivre de dos une travailleuse sociale traversant des couloirs. Et puis, ça part vers une étrange comédie romantique expédiée en 20 minutes et autant d'ellipses qui finit sur un décès, et arrive le cœur du film, qui est cette expérience pratique de la découverte du milieu de la domination dans les hôtels de discrétion, comme on les appelle, ai-je appris à Bruxelles, avec ce ton assez étrange sur un sujet aussi scabreux, qui est celui de la comédie, de l'étonnement et de la douceur. Et c'est sans doute ce qui fait tout l'intérêt du film.
Raphaël Pirard.
J'aime beaucoup le parti pris de cette cinéaste Alex Poukine, qui vient du documentaire, de faire un film sur le travail du sexe, mais de le filmer beaucoup moins par un biais social ou sexuel que par la question vraiment du travail. Et ça, je trouve que c'est la grande idée du film.
On écoute la bande-annonce de Kika.
J'adore cette chanson.
J'ai beau me dire...
David.
Kika.
Tu fais quoi?
Je suis assistante sociale.
J'ai rendez-vous avec madame,
ça change.
Allez, bonne journée, je t'aime.
Rien ne t'efface.
J'ai juste un tout petit peu enceinte.
Mais comment ça, un tout petit peu?
Allez.
Tu vas faire quoi là avec l'appart et tout?
On bouge d'ici la fin du mois.
Et quelqu'un à qui tu peux emprunter de l'argent?
Comment vous payez votre loyer?
Ben, je vends mes culottes sales.
Ok, ça je vais pas le mettre dans le dossier.
Vous me traitez de gros dégueulasse et je vous donne 50 euros de plus.
Vous êtes un gros dégueulasse.
Pourquoi vous me dites ça?
Attendez, c'est vous qui m'avez demandé.
Oui, mais argumentez.
Ah.
Voilà, c'est Kika d'Alex Poukine en salle aujourd'hui, son premier film de fiction. Antoine Guillaume, c'est vrai que faire de l'humour avec ça, effectivement, là, je reprends votre mot de tout à l'heure, c'est casse-gueule.
Oui, c'est casse-gueule, mais ça marche parce qu'on est avec un personnage qui découvre ça. C'est-à-dire que, pour des raisons purement économiques au début, mais aussi parce qu'il y voit peut-être un prolongement à la fois plus rémunérateur et plus efficace de son travail d'assistante sociale, on va découvrir avec elle, et de façon très documentée, toutes les pratiques qu'il peut y avoir, qui, objectivement, sont assez gaguesques. Mais qui, au fur et à mesure que son regard évolue, et s'interrogeant surtout sur pourquoi des gens et des hommes en général se prêtent à ces pratiques et les payent effectivement assez cher, on touche à quelque chose de l'humanité qui est très troublant. Le sadomasochisme au cinéma, c'est là encore un genre en soi. Enfin, et des grands cinéastes s'y sont prêtés. Mais souvent sont tombés dans une sorte de fascination trouble dessus. Là, c'est la première fois qu'on voit ce qui est effectivement un travail pris de façon très pragmatique, très terre à terre presque. Enfin voilà, il faut faire des gestes, il faut découvrir. C'est comme tous les métiers, ça s'apprend. Avant qu'on, mais vraiment juste à la fin, et sans dire comment, tout d'un coup, ça affecte l'âme presque et les sentiments les plus profonds de la protagoniste. Mais au début, c'est vraiment déballons notre matériel. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment ça se nettoie? Comment on fait attention malgré tout à ne pas rentrer trop dedans? C'est quelqu'un qui voudrait se préserver en fait de ce que ça peut toucher d'assez étrange et torve à l'intérieur de la psyché, et elle dira au début, bon d'accord, je veux bien vous faire ça, mais on est bien d'accord, hein, moi j'y prends aucun plaisir, je fais ça pour vous, je ne joue qu'un rôle, et c'est en fait un personnage presque de comédienne qui, malgré tout, va finir par rentrer dans le personnage à la fin. C'est quelque chose qui est très beau, parce que c'est jamais théorisé, comme je le dis ici. C'est toujours de façon très pratique, fonctionnelle. Et là, c'est évidemment le côté documentariste d'Alex Pouquine qui revient, mais qui avait déjà travaillé ces questions-là, puisque dans son c'est pas son premier long-métrage, c'est son premier long-métrage de fiction, puisque cette même année est sorti ce film Sauf qui peut, où il y avait déjà des jeux de rôle, où des soignants se mettaient à la place des patients et essayaient de voir ce que ça faisait de subir, en fait, une question de domination. C'est vraiment quelque chose qui, manifestement, la travaille beaucoup, Alex Pouquine.
Alors, on va rappeler le nom, on va le dire tout simplement, pas le rappeler, c'est Manon Clavel qui incarne Kika à l'écran. Raphaël Pirère.
Oui, elle est pour beaucoup dans la réussite du film, Manon Clavel. Elle tient vraiment le film sur ses épaules. Et c'est vrai que c'est elle qui fouette et qu'on la voit vraiment fouetter ses clients. Ce qui est très étonnant chez cette comédienne, c'est qu'elle a une silhouette assez frêle. Elle a un visage qui change tout le temps, d'une scène à l'autre. Et elle a cette voix que vous avez entendue dans la bande-annonce, qui est une voix très grave et qui emplit vraiment l'écran. Et donc le film tient sur cette espèce de paradoxe de cette actrice qui produit quelque chose d'à la fois très puissant et d'à la fois très retenu, et je pense que ce qu'a dit Antoine sur la domination, ça marche parce qu'elle est là, parce que c'est elle qui tient cette question-là. Et c'est vrai que on commence à voir la domination par le regard du personnage, qui est un regard un peu ricanant et un peu condescendant sur des hommes qui sont prêts à acheter des culottes sales. Et puis, progressivement, à mesure qu'elle entre dans sa fonction et qu'elle se rend compte que c'est difficile de dominer aussi, que c'est pas du tout le rôle enviable des deux, et que être vraiment forte et vraiment faire mal à quelqu'un, c'est une posture dans la société qui est pas aisée, qui est pas évidente. Et donc, à mesure qu'elle apprend son travail, qu'elle suit une formation accélérée aussi, elle va avoir une domina qui lui donne des petits tips pour être une meilleure dominatrice. On entre aussi dans quelque chose qui est beaucoup plus complexe sur les motivations. Pourquoi est-ce qu'un chef d'entreprise a besoin de se faire fouetter pour faire sortir toute la souffrance, la douleur que lui impose une forme de masochisme aussi dans le travail que nous impose la société. Et donc le regard se complexifie et devient de plus en plus nuancé et de plus en plus profond. Et ça, c'est très beau dans le film. Et c'est vrai que la question de la sexualité, on n'est pas du tout chez Maîtresse de Barbet-Schroeder ou chez Buñuel et Belle de Jour. La question de la sexualité, elle la traite par la comédie romantique au début, par une rencontre où Kika va dans cet hôtel, effectivement. Avec son amoureux, et puis elle retourne après travailler dans ce même lieu. Donc se coexistent comme ça des pratiques du corps, de la sexualité qui se frottent, mais de manière très très surprenante dans le film, et qui habitent le film par les sons documentaires de coït et de plaisir que la réalisatrice a enregistré dans ce véritable hôtel, qui n'est pas un studio mais qui est un lieu réel.
Antoine Guillot, vous parliez de douceur.
Mais oui, parce que c'est quelqu'un qui veut du bien, en fait, qui essaye de faire le bien dans tout ce qu'elle fait. Voilà. Et qui a ce regard, effectivement, au début, un peu sardonique sur ses clients, mais ça dure pas, parce que le bon fond de ce personnage, c'est compliqué, hein, toujours au cinéma, de montrer des gens gentils et sans tomber dans la niaiserie, dans la mièvrerie. Et en fait, l'empathie qu'elle va développer, c'est intéressant, très, très humainement, comme la cinéaste le fait aux motivations de ses clients, est assez troublante, avec ce regard aussi. La question du documentaire est assez passionnante dans ce film, parce que on ne saurait dire qui, dans le film, est comédien professionnel ou pas. Alors, il y en a qu'on avait repéré comme Manon Clavel. Mais par exemple, l'actrice ou pas qui joue la dominatrice, qui va l'initier un peu au secret du métier, est une actrice. Mais en la voyant, on est persuadé, parce qu'elle est extrêmement forte dans ce qu'elle fait. Alors c'est Annaëlle Snoeck, qu'on avait vu notamment chez Bertrand Mandico, et qui la joue extrêmement bien. Et puis il y a tel autre personnage, en réfléchissant un peu ou en enquêtant un peu, on se rendra compte que en fait ce n'est pas une comédienne dite professionnelle, mais comme dans son métier, ben elle doit jouer un jeu aussi, elle est très bonne à l'écran. Donc on est sans arrêt sur une ligne d'oscillation entre le réel, la fiction, puisque c'est une fiction en permanence que se raconte et que joue et que performe extrêmement bien à la fois la dominatrice, les clients en permanence. C'est un film assez, là encore, d'une grande intelligence.
Raphaël Pirère, un dernier mot peut-être.
Oui, cette question du masque social et du fait qu'en société, on est toujours dans un rôle de simulation. On est toujours en train de jouer quelque chose, de jouer une place qui peut être une place de domination ou une place de faiblesse. C'est quelque chose qui traverse le film, et ce que je trouve très intelligent, c'est que Antoine le disait, on pense à Rosetta, on pense aux frères Dardenne au début, quand on est dans ce couloir de la CAF, enfin de son bureau d'assistante sociale, et on se dit on va partir dans un film très misérabiliste comme ça. Et en fait, ce qui est intelligent...
Les Dardenne ne sont pas misérabilistes, je ne peux pas laisser faire ça.
En tout cas, on n'est pas du côté de la pitié envers le personnage. Et ce que je trouve très intelligent, c'est qu'elle n'oppose pas le travail de l'assistante sociale et le travail du sexe. Au contraire, les deux sont une même phase d'une société violente qui nous assigne des places et qui joue avec nos émotions de façon très brûlante comme ça.
La différence, c'est qu'il n'y a pas la violence de l'institution, en fait.
Ouais. Kika de Alex Poukine, avec entre autres donc Manon Clavel. Antoine Guillot, Raphaël Pirard, merci beaucoup d'être venu dans les Midis de Culture.